Nouvel espace, même mission. C'est une joie d'être avec vous ce matin, dans cet espace. Il reste encore beaucoup à faire ici. La moquette à installer, les prises électriques à poser, les décorations, la finition de la scène en construction, de nouvelles chaises à mettre en place, et ainsi de suite. Cet espace n'est certainement pas terminé, mais il est utilisable. Les jeunes adultes y ont tenu leur conférence hier, et, comme je leur ai dit, il était approprié que le premier événement organisé dans ce nouvel espace soit la conférence des jeunes adultes, puisqu'il représente une part importante de l'Église. Et, c'était une conférence formidable. C'était génial de voir cet espace rempli de louanges, de prières et de communions. Comme je l'ai partagé avec eux hier, le verset qui m'est venu à l'esprit était le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En tant qu'Église, nous prions pour un nouvel espace depuis longtemps. Un espace que nous pourrions utiliser dimanche, mais aussi pendant le reste de la semaine. Voici les points de prière spécifiques. Un espace proche des transports publics. Coche. Proche des universités. Coche. Accessible à tout moment pendant la semaine, pour organiser plus d'événements d'église. Coche. Assez grand pour accueillir nos rassemblements du dimanche matin. Presque une coche. Pas encore sûr. À un prix raisonnable. Grosse coche. Vous voyez, nous avions déjà demandé au sujet de cet espace il y a quelques années, mais le prix était bien trop élevé. Puis, plus tôt cette année, le centre commercial nous a proposé de reprendre un espace au niveau moins 1. Cela paraissait être une excellente opportunité, mais cela ne s'est pas concrétisé. Et pendant un moment, cela m'a découragé. J'ai prié, « Seigneur, que se passe-t-il avec tout cela ?» Mais ensuite, le centre commercial s'est senti mal à propos de ce qui s'était passé au niveau moins 1, et nous a parlé de cet espace. J'ai dit, « Merci, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. » Et ils ont dit, « Non, cette fois-ci, fixez votre prix. » D'habitude, quand quelqu'un me dit de fixer mon prix, je dis toujours un chiffre trop élevé. Je ne suis pas un grand négociateur. Je préfère toujours payer un peu plus et éviter le conflit. Alors, quand ils ont dit « fixez votre prix », j'ai commencé avec un chiffre en tête que je pensais raisonnable. Mais ensuite, je me suis dit que ce n'était pas le moment d'être raisonnable. C'est un moment pour la foi. Les paroles de Jésus résonnaient sans cesse à mes oreilles. « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Alors, nous sommes venus avec un chiffre vraiment bas. Et non seulement, nous avons proposé un chiffre très bas, mais nous avons aussi demandé une chose de plus. Nous avons dit, d'accord, voici le chiffre. Et pouvons-nous garder le bureau de l'église dans le lot? Encore une fois, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et le centre commercial a dit, oui. Alors vous êtes venus et avez aidé à abattre les cloisons, qui était ici. Le week-end dernier, vous êtes venu peindre. Et nous y sommes aujourd'hui. Pour être honnête, je ne pensais pas que nous nous réunirions ici un dimanche aussi vite. Mais Dieu est bon. Et donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je veux juste prendre un temps de prière. Un moment pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Jésus a dit qu'avant tout, sa maison devait être une maison de prière. Donc, je veux que nous prenions le temps de prier. Vous pouvez prier en silence ou prier à haute voix. Mais entrons dans ces portes avec reconnaissance. Après quelques instants, je conclurai notre temps de prière. Prière. Si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Néhémie chapitre 8. La semaine dernière, nous avons étudié Néhémie chapitre 2. Lorsque Néhémie a inspecté les murailles de la ville de Jérusalem, je pensais que nous aurions encore quelques dimanches pour parcourir le reste du livre de Néhémie, mais nous voici arrivés là. À ce moment de l'histoire, malgré l'opposition de tous côtés, après 52 jours, le mur fut achevé. Le projet était terminé. C'était un moment de triomphe pour Néhémie et pour Israël. Un moment pour prendre du recul et voir le fruit de leurs efforts. Un moment pour prendre du recul et s'émerveiller de ce que Dieu avait accompli. Les murailles étaient donc reconstruites, mais qu'en était-il de l'état de leur cœur? Rappelez-vous, la raison pour laquelle Israël a été envoyé en exil à Babylone, c'est à cause de leur désobéissance continuelle envers Dieu. Dieu les avait avertis que s'ils ne le suivaient pas, il y aurait des conséquences. Mais Israël n'a pas écouté, alors ils ont été envoyés à Babylone en exil. Donc la question est, où en sont leurs cœurs en ce moment? Même si le projet est terminé, leurs cœurs ont-ils changé? 8.1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait prescrite à Israël. Le peuple se rassemble. Ils se réunissent à la porte des eaux, ce qui est approprié car nous allons voir que le peuple est désespérément assoiffé. Non pas assoiffé d'eau à boire, mais d'eau vive que seul Dieu peut offrir. Au verset 1, nous commençons à voir quelque chose dans le cœur du peuple. Le peuple demanda à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse à leur assemblée. Esdras était un prêtre et le livre précédent dans la Bible parle de lui. Le livre de la loi de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ainsi, le peuple est tous réunis pour entendre la parole de Dieu. 2:3-2. Alors Esdras, le prêtre, apporta la loi devant l'assemblée, hommes et femmes, et tous ceux qui étaient capables de comprendre ce qu'ils entendaient, le premier jour du 7e mois. Il en fit la lecture devant la place située devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de comprendre. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Esdras commence à lire la Bible, mais il ne se contente pas de lire quelques versets. Il ne lit pas seulement quelques chapitres. Il lit pendant des heures, depuis le matin jusqu'au milieu de la journée. Et nous remarquons que le peuple ne s'ennuie pas. Ils ne s'endorment pas. Ils écoutent. Il est dit que leurs oreilles étaient attentives. Ils n'ignorent plus Dieu, ils écoutent. Ils veulent entendre la voix de Dieu. On voit déjà que les mots « entendre » et « comprendre » sont mentionnés 2 fois dans ces versets. 4:8-4. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois, qu'on avait faite pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Hashbaddana, Zacharie et Meshulam. 5. Esdras ouvrit le livre en présence de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se leva. 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen. En levant les mains, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. 7. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya, les Lévites, expliquaient la loi au peuple, tandis que le peuple restait à sa place. 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu au peuple. Esdras ouvre la parole de Dieu et commence à parler au peuple. Il bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple dit « Amen, Amen ». Et nous pouvons lire ici que non seulement leur cœur était touché, mais ils étaient poussés à lever les mains. Ils inclinèrent la tête, le visage contre terre, et ils adorèrent le Seigneur. Ils exprimaient leur adoration à travers les mouvements de leur corps. Ils étaient visiblement émus en entendant la parole de Dieu. Oui. Les murailles ont été reconstruites, mais qu'en est-il de leur cœur? Eh bien, nous avons ici la réponse. Quelle belle image du peuple de Dieu, revenant à lui, dans l'adoration. Après tout ce qu'ils avaient traversé. Après s'être détournés de Dieu et avoir servi d'autres idoles. Après avoir été esclaves à Babylone. Après avoir vu beaucoup de leurs frères et sœurs tués. Après avoir vu leur ville détruite. Après tout cela, ils reviennent maintenant vers le Seigneur. Les 7 premiers chapitres de Néhémie parlent de la reconstruction des murailles de la ville. Mais le reste des chapitres de ce livre concerne la reconstruction du peuple de Dieu. La reconstruction de leur cœur. Ils veulent entendre Dieu. Et dans les versets 7 et 8, nous voyons les dirigeants de leur communauté les aider à comprendre ce que la parole de Dieu dit. C'est, je l'espère, ce que je fais en ce moment. Lire la parole de Dieu et vous aider à comprendre ce qu'elle signifie. Donnez le sens, comme il est dit au verset 8, afin que vous puissiez comprendre. Mais, c'est aussi ce qui peut se produire lors d'une étude biblique, ou cela peut arriver lorsque vous expliquez simplement à un ami ce qu'un verset particulier signifie. La parole de Dieu doit être lue. Mais la parole de Dieu doit aussi être enseignée. Pour en donner le sens. Et lorsque les gens comprennent la parole de Dieu, cela conduit à la transformation et à la croissance, comme nous le voyons au verset 9. 9. Et Néhémie, qui était le gouverneur, et Esdras le prêtre et scribe, et les Lévites qui enseignaient au peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le peuple est visiblement ému en entendant la parole de Dieu. Hébreux 4:12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et nous le voyons ici. Leur cœur était touché, et ils étaient portés à pleurer. On peut facilement imaginer le peuple, alors qu'il écoute la parole de Dieu et la comprend, commencer à relier les points. Il commence à assembler les pièces du puzzle. Il commence à réaliser qui est Dieu et les bons projets qu'il a pour eux. Ses voies sont bonnes. Ses voies étaient destinées à les aider à s'épanouir et à prospérer. Mais ils réalisent aussi qu'ils avaient rejeté ses voies. Ils prennent conscience qu'ils avaient rejeté sa parole, et cela les a conduits aux larmes. C'est quelque chose que j'ai vécu lors de mon salut. Lorsque j'ai entendu l'évangile clairement, lorsque j'ai entendu que Jésus, Dieu fait homme, est venu sur terre pour mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il a été enseveli et est ressuscité 3 jours plus tard, et qu'en me repentant de mon péché et en croyant en Jésus comme Seigneur, je pouvais être pardonné et sauvé. Quand j'ai finalement compris cela, lorsque Dieu a ouvert mes yeux à cette vérité, j'ai été submergé. Au fur et à mesure que la vérité de l'Évangile devenait claire pour moi, j'ai ressenti profondément que j'avais péché contre un Dieu saint et parfait. Il était tellement bon. Et pourtant, moi, j'avais été si mauvais. J'avais fait les choses à ma façon. Alors, au moment où j'ai compris ma culpabilité, j'ai eu l'impression de tomber. Mais exactement au même moment, j'ai aussi compris que Jésus était venu pour me sauver. Et il a tendu la main, m'a relevé et m'a placé sur un chemin de justice. La parole de Dieu m'a conduit à la repentance, ce qui m'a permis de voir que Jésus m'a sauvé de mon péché. Il m'a tiré des ténèbres, et Dieu continue de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Ainsi, le peuple d'Israël est ému à l'écoute de la parole de Dieu. Mais Néhémie leur dit que ce n'est pas encore le moment de pleurer. Alors il leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites firent taire tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger, boire, envoyer des portions et faire une grande réjouissance. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La raison pour laquelle le peuple devait cesser de s'affliger était que ce jour était saint. C'était le premier jour du septième mois, ce qui signifiait que c'était le jour de la fête des trompettes. Ce jour était habituellement un jour de fête, mais bien sûr, le peuple d'Israël pleurait parce qu'il se repentait. Ainsi, alors que la nation d'Israël recommence à suivre la parole de Dieu, Néhémie les invite à célébrer la fête des trompettes. Ils rentrent donc chez eux pour manger et boire, et pour se réjouir. Mais quelle était la raison de leur réjouissance? Naturellement, on pourrait penser qu'ils se réjouissaient parce que les murailles avaient été reconstruites. Ils étaient revenus dans leur ville et s'étaient réinstallés chez eux. Mais au verset 12, la raison pour laquelle ils célébraient, c'est parce qu'ils avaient compris les paroles de Dieu. Vous voyez, les murailles n'étaient pas l'essentiel. L'essentiel, c'était d'être avec Dieu. Les murailles étaient utiles pour rassembler et unir le peuple d'Israël. Et c'était une grande réalisation. Mais les murailles n'ont jamais été la chose principale. Elles ont toujours été secondaires. Ce qui primait, c'était que le peuple d'Israël revienne à Dieu, dans l'adoration et dans la repentance. Dieu était le but ultime, pas les murailles. Les murailles étaient importantes. Elles leur donnaient une identité en tant que ville en reconstruction. Elles aidaient à rassembler Israël. Mais les chapitres 1 à 7 n'ont jamais été le but principal. Le chapitre 8 a toujours été le véritable objectif, qu'Israël revienne au Seigneur son Dieu. Il y avait à nouveau de la joie dans la ville de Jérusalem. La joie de l'Éternel était leur force. C'était une raison de se réjouir. C'était une raison de célébrer et de faire la fête. Avoir cet espace ici au premier niveau est formidable. C'est agréable. Je me réjouis. Mais il y a beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui qui ont de beaux bâtiments, de belles installations, de belles scènes, un bel éclairage, une belle musique, de beaux programmes. Elles ont plein de belles choses. Mais elles ont le cœur endurci. Avoir un espace est important, mais nous devons toujours comprendre que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est votre cœur, c'est votre relation avec lui. Il y a quelques mois, mon épouse et moi avons célébré notre 18e année de mariage. Il y a 18 ans, nous avons célébré notre mariage avec notre famille et nos amis. Ce fut une journée formidable. C'est un jour que je n'oublierai jamais. C'était l'occasion de sceller notre engagement et notre amour pour toujours, devant Dieu et devant notre famille et nos amis. Et bien sûr, lorsque vous vous mariez, vous recevez un certificat de mariage. C'est un document officiel du gouvernement qui prouve que nous sommes légalement mariés. Maintenant, imaginez que vous étiez à mon mariage il y a presque 18 ans. Juste pour que vous le sachiez, j'étais un peu plus mince à l'époque. Alors, ajoutez cela à votre imagination. Et imaginez que vous veniez me voir, ainsi que Mélissa, et que vous disiez, « Félicitations, je suis tellement content pour vous. » Mais ensuite, je réponds, « Merci, je n'arrive pas à croire que j'ai enfin un certificat de mariage. J'ai toujours voulu un certificat de mariage. » Regardez mon certificat de mariage, n'est-ce pas incroyable? Naturellement, vous seriez un peu confus, et vous diriez, oui, le certificat de mariage est bien, mais l'essentiel, c'est que tu puisses être avec ta femme. Tu peux être avec elle tout le temps maintenant. Mais moi, je dis, non, tu ne comprends pas. Regarde ce document. Je l'ai enfin obtenu. Regarde les mots, regarde les signatures. Ce n'est pas incroyable. J'ai attendu ce document toute ma vie. Et vous partiriez probablement en pensant, Kint a perdu la tête. Vous comprenez l'idée de cette histoire, n'est-ce pas? Ce serait absurde d'être plus excité par le certificat de mariage que par le fait de passer le reste de ma vie avec ma femme. Oui, le certificat de mariage est nécessaire, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis marié. Le certificat est la preuve que le mariage est légal, mais ce n'était pas le but principal. Le véritable objectif de mon mariage, c'était d'être avec ma femme. Pour être honnête, je ne sais même pas où se trouve ce certificat de mariage en ce moment.
Cet espace est formidable. C'est un cadeau. Mais l'essentiel, c'est votre relation avec Dieu.
La joie du Seigneur était leur force, et la joie du Seigneur est notre force. J'ai de grands espoirs pour cet espace. J'espère qu'il pourra être un lieu pour des conférences pour les jeunes adultes, des conférences sur le mariage, des formations à l'évangélisation, des mariages, des études bibliques, la prière, et plus encore. Mais mon plus grand espoir, c'est que vous rencontriez Dieu dans cet espace, que vous grandissiez dans cet espace, que vous entendiez la parole de Dieu. Soyez touchés, puis poussés à l'action, tout comme Israël l'était à l'époque.
Praise. Le deuxième jour, les chefs des maisons paternelles de tout le peuple, avec les prêtres et les lévites, se réunirent auprès d'Esdras, le scribe, pour étudier les paroles de la loi. 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, que les enfants d'Israël devaient demeurer dans des huttes pendant la fête du septième mois.
15. Et qu'ils devaient le proclamer et le publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem, aller dans la montagne et apporter des branches d'olivier, d'oliviers sauvages, de myrte, de palmiers et d'autres arbres feuillus pour faire des huttes, comme il est écrit.
Voilà donc que, le deuxième jour, certains du peuple se rassemblent à nouveau pour lire davantage la Bible. Et ils lisent au sujet de la fête des huttes, comme l'explique un auteur.
La fête des huttes était une fête de 7 jours qui commençait le 15e jour du 7e mois. Puisqu'elle célèbre le salut du peuple depuis l'Égypte, il convenait qu'ils cessent leur travail et qu'ils adorent devant l'Éternel. La base de ces 3 fêtes est le sabbat. L'observance de ce calendrier distingue Israël de toutes les nations environnantes. Ainsi, la fête des huttes était une manière de célébrer la délivrance d'Israël hors de l'esclavage en Égypte.
Esdras et les autres découvrent donc dans la parole de Dieu la fête des huttes, peut-être pour la première fois. Et ils réalisent, « Oh, nous ne faisons pas cela. Allons chercher tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. » 16-18.
16 Le peuple alla donc, apporta ses choses et se fit des huttes, chacun sur son toit, dans leur cour.
Dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm.
17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes, et ils habitèrent dans ces huttes. Depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient plus fait cela. Et il y eut une très grande joie.
18. Et chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier, on lut dans le livre de la loi de Dieu. Ils célébrèrent la fête pendant 7 jours. Et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle, selon la règle.
Il réalise qu'il n'avait pas observé la fête des huttes, alors il commence à la célébrer. Ce jour-là, je suis sûr que ces personnes avaient fait des plans pour cette journée, mais ils lisent la Bible, ils lisent au sujet de la fête des huttes, ils réalisent qu'elle doit être célébrée cette semaine-là, selon le calendrier. Alors ils arrêtent tout et commencent à construire des huttes. Cela n'était pas arrivé depuis les jours de Josué, mais ce jour-là, ils l'ont célébré et il y eut beaucoup de joie. C'est sans doute l'un des exemples les plus rapides d'application que nous voyons dans la Bible. Leur réaction est immédiate. Ils lisent et ils font. Normalement, cela ne se passe pas si vite, n'est-ce pas? Certaines personnes utilisent les catégories de tête, cœur et main. L'idée c'est que d'abord, nous entendons la parole de Dieu, elle entre dans notre tête. Ensuite, à mesure que nous la comprenons et que nous sommes convaincus, elle entre dans notre cœur. À partir de là, elle passe à nos mains. C'est-à-dire qu'elle se transforme en action. De notre tête à notre cœur, puis à nos mains.
Mais parfois, il peut falloir des jours pour que la parole de Dieu passe de notre tête à notre cœur, puis à nos mains. Parfois, cela peut prendre des années. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous pouvons savoir ce qu'elle dit. Nous pouvons même la comprendre. Mais peut-être essayons-nous d'éviter de la mettre en pratique dans notre vie. Nous pouvons faire cela pour de nombreuses raisons. La peur du changement, le refus de sortir de notre zone de confort, ou peut-être que nous ne voulons tout simplement pas encore laisser Dieu entrer dans cette partie de notre vie. Mais comme nous le voyons ici dans Néhémie 8, la véritable joie se trouve dans l'obéissance à Dieu. Car Dieu sait mieux que nous comment vivre. Dieu sait mieux que nous comment vivre une vie joyeuse et pleine. Dieu sait mieux que nous quelles sont les bonnes décisions et les bons choix à faire. Dieu ne veut pas que vous viviez des vies ennuyeuses ou sans intérêt. Non. Il veut que vous fassiez l'expérience de la vie abondante en Jésus-Christ. La vie dans sa plénitude. Et il nous a révélé comment vivre par sa parole et par son Saint-Esprit.
Je pense que nous voyons ici, dans Néhémie 8, que plus vite vous vous alignez sur sa parole, plus votre vie sera remplie de joie. Peut-être que Dieu vous a déjà montré ce que vous devez faire, ce qu'il veut changer en vous, et que vous hésitez. C'est dans votre tête, mais ce n'est pas encore dans votre cœur, ni dans vos mains.
Laissez-moi vous dire que la voie de Dieu est toujours la meilleure voie. Cela ne signifie pas que c'est la voie la plus facile, mais c'est toujours la meilleure. Faites ce pas de foi. Que la parole de Dieu habite richement en vous.
Il n'est pas nécessaire que cela prenne 20 ans pour passer de votre tête à votre cœur, puis à vos mains.
Comme nous l'avons lu ce matin, cela peut se produire aujourd'hui. Dernier verset.
9:1. Le 24e jour de ce mois, le peuple d'Israël s'assembla, jeûnant, revêtu de sacs et la tête couverte de poussière.
2. Les Israélites se séparèrent de tous les étrangers et se tinrent debout pour confesser leurs péchés et les iniquités de leurs pères. 3. Ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la loi du Seigneur, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent le Seigneur, leur Dieu. 3 semaines plus tard, Israël revient encore fidèlement vers le Seigneur. Il s'engage dans un temps de confession et de jeûne. Plus tôt, les chefs avaient empêché le peuple de pleurer et de confesser, mais maintenant, c'est le moment de le faire. Ils se réunissent en communauté, à l'écart de tous les étrangers présents, et lisent la Bible pendant un quart de la journée, puis confessent leurs péchés et adorent Dieu pendant un autre quart de la journée.
La confession et la repentance vont toujours de pair. La confession consiste à admettre devant Dieu la vérité de la situation. C'est dire,
Dieu, j'ai péché contre toi. Et la repentance dit, Dieu, je veux changer. Et nous voyons ici que le peuple est prêt à changer. Dans un instant, nous allons avoir un temps de confession et d'adoration, tout comme Israël l'a fait à l'époque. C'est un moment pour que vous soyez honnête avec Dieu. Peut-être y a-t-il un péché dans votre vie qui prend racine, et vous devez aller vers le Seigneur dans la confession. Dieu est fidèle. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés et vous purifier de toute iniquité. Ainsi, la confession est la première étape. La repentance est la deuxième étape. Se repentir, c'est changer son esprit, sa manière de penser. Et une vraie repentance conduit toujours à un changement d'action.
Tout commence avec la parole de Dieu, qui pénètre nos cœurs. Cela conduit à la confession, qui mène à la repentance, qui conduit finalement à quoi ? À la louange. Dernier verset, 4-5. 4.
Sur les marches des Lévites se tenaient Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani. Ils crièrent d'une voix forte vers le Seigneur, leur Dieu. 5. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashabnéa, Sherebia, Odia, Shebania et Pétaïa, dirent « Levez-vous et bénissez le Seigneur, votre Dieu, d'éternité en éternité. Béni soit ton nom glorieux, qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. »
Les Lévites, qui étaient la tribu d'Israël, composée principalement de prêtres, rassemblent le peuple pour les conduire dans la louange. Le reste du chapitre 9, c'est Israël qui loue Dieu pour sa fidélité envers eux.
Du temps d'Abraham, à travers l'esclavage, en Égypte, durant l'errance dans le désert et jusqu'à la terre promise, Dieu était avec eux tout le temps. Dieu était patient. Il était prêt à pardonner. Plein de grâce, de miséricorde et riche en amour fidèle. C'est Israël qui a désobéi au Seigneur, qui s'est éloigné de lui.
Néhémie est une belle image du peuple de Dieu revenant vers le Seigneur.
Ouvrant leur cœur à lui, confessant leurs péchés les uns aux autres, et louant Dieu. Alors que nous entrons dans ce nouvel espace, peut-être que le Seigneur veut renouveler certaines choses qui se passent dans votre cœur. Comme nous l'avons lu la semaine dernière dans Néhémie 2, être honnête avec soi-même et avec le Seigneur est toujours la première étape. Avant de faire cela, je voudrais conclure avec quelques points tirés de Néhémie 8.
1. Votre relation est plus importante que la tâche. Dans le royaume de Dieu, la relation est plus importante que la tâche. Nous le voyons ici dans le livre de Néhémie. Les murs de la ville n'étaient pas l'essentiel. L'essentiel était de revenir à Dieu. La tâche n'est jamais plus importante que la relation. C'est vrai pour notre relation avec Dieu, et c'est vrai pour notre relation avec les autres.
Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 23 à 24. 2. 23.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande.
3. L'offrande sur l'autel était importante, mais Jésus donne la priorité à la relation. Il dit d'abord d'aller rétablir la relation, puis de venir offrir son don. La relation est plus importante que la tâche. Ta relation avec Dieu est plus importante que ton service pour Dieu. Ta relation avec les autres, la façon dont tu les traites, est plus importante que n'importe quel projet de ministère sur lequel tu travailles.
À quoi sert-il à une église d'avoir un bel espace si les cœurs sont durs?
Les murs n'étaient pas le but final, ils étaient le moyen d'atteindre le but. Revenir à Dieu. Cet espace n'est pas le but final. Cet espace est un moyen de se rapprocher de Dieu. 2. Le vrai réveil commence par la parole de Dieu.
1. Dans ces deux chapitres, nous voyons la puissance de la parole de Dieu. Comme il est dit dans Hébreux,
la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle perce les cœurs. Ne sous-estime jamais la puissance de la parole de Dieu. 2. Que ce nouvel espace soit rempli de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et obéir à la parole de Dieu. 3. Le réveil commence par l'écoute de la parole de Dieu. Le réveil se produit lorsque nous confessons nos péchés et nous repentons en réponse à sa parole. Et le réveil est complet lorsque nous donnons à Dieu la gloire et la louange. Ainsi, tout comme Israël l'a fait ce jour-là, je voudrais que nous prenions un temps pour la confession et l'adoration. L'équipe de louange va s'avancer et nous conduire dans des chants d'adoration. Mais pendant que vous chantez, prenez un moment pour confesser au Seigneur les choses sur lesquelles vous devez être honnête. La Bible dit aussi, « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Donc, je serai ici à l'avant si vous souhaitez le faire, ou vous pouvez confesser vos péchés à un ami ou à un membre de votre famille proche de vous. Le nouvel espace est magnifique, mais votre relation avec le Seigneur est plus importante.